La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio-Orient est Belaïde Aban, auteur de La Lune à Targan Zemmour, aux éditions Les Impliqués. Bonjour.
Bonjour Loïc Barrière.
Belaïde Aban, vous êtes professeur de médecine et auteur d'essais sur la guerre de libération algérienne et le mouvement national algérien. C'est un roman où vous racontez le destin d'une famille sur trois générations en Algérie et vous nous montrez la guerre d'indépendance à ses débuts. Vous nous racontez cette guerre de l'intérieur. Vous donnez à voir la réalité de la colonisation et ce qu'elle signifie dans la vie de vos personnages. Alors comment est né ce roman, vous qui avez publié d'abord des essais sur ce sujet ?
Il s'agit de la période des débuts de la guerre de libération algérienne. Vous l'avez dit dans votre introduction, j'ai écrit plusieurs essais, je dirais même 6 essais sur la guerre de libération algérienne avec pour fil conducteur Aban Ramdan. Et donc, au cours de mes nombreuses conférences et mes nombreuses signatures, pas seulement en Algérie, mais en France, au Canada, en Belgique, beaucoup de personnes me posaient des questions. Quand est-ce que vous allez parler du petit peuple? Enfin, vous avez parlé surtout des chefs, des luttes de pouvoir dans la révolution algérienne. Et on voudrait savoir aussi ce qu'il en était du petit peuple au cours de cette période. Et donc, je m'étais engagé à faire une chronique des villages de regroupement, parce que moi-même, j'ai vécu dans un village de regroupement pendant toute la durée de la guerre. Au fur et à mesure que mes recherches et puis ma pensée sur la façon d'articuler une chronique évoluait, je m'étais rendu compte que j'étais un petit peu gêné aux entournures, comme on dit. J'avais une marge de manœuvre étriquée. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire carrément une œuvre de fiction, inventer des personnages, inventer des situations, mais sur la base de choses qui ont réellement existé. Et c'est comme ça que, d'abord, pour répondre à une promesse, et deuxièmement, pour avoir une liberté d'écriture, une liberté totale d'écriture, donc c'est pour ça que j'en suis arrivé à écrire ce roman qui parle donc d'une famille au début de la guerre d'Algérie, de ses souffrances, de ses espérances.
Alors, Targan Zemmour, si on le traduit du berbère, c'est la ravine des oliviers, titre de votre premier chapitre. Un lieu oublié de Dieu, écrivez-vous. J'ai été très sensible à vos descriptions de paysages. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce lieu, et notamment le village de Hizra ?
En fait, c'est quand j'ai pu imaginer ce village, le fleuve en contrebas, le lieu dit qu'on appelle Targan Zemmour, en kabyle ça se dit Targan Zemmour, c'est-à-dire en fait la ravine des oliviers. Et puis au départ j'étais parti sur une petite masure, donc ce serait le lieu dit dans lequel évolue cette famille. Après je me suis retrouvé dans une situation un petit peu étriquée, et donc un peu misérabiliste, et j'ai aussi inventé l'huilerie. Donc un ensemble, une habitation, une cour, une huilerie. C'est dans le lieu dit qui s'appelle Targan Zemmour, et puis un peu plus haut c'est le village d'Hizra. Mais en fait Targan Zemmour c'est la périphérie du village d'Hizra, elle fait partie de ce village, et puis il y a en contrebas le fleuve et la vallée. Donc quand tout cela a été mis en place, j'étais presque certain, disons que j'avais repris confiance, je me suis dit mon récit s'écrira, j'arriverai au bout de ce récit. Voilà un peu ce qu'est Targan Zemmour. C'est donc un lieu dit avec une rigole, qui est plutôt sèche en été, plutôt très exubérante en hiver et au printemps et en hiver. Et puis des oliviers qui me rappellent également des paysages de mon enfance. C'est pas parti de rien, naturellement. Et donc voilà, des oliviers, une rigole avec de l'eau qui chuinte et qui suinte, si vous voulez, et puis qui se déverse dans ce fleuve qu'on appelle le grand fleuve en kabyle. Asif Arawan, le grand fleuve. Voilà un peu le lieu dans lequel se déroule cette histoire, qui est tout à fait fictif, hein, mais dans mon esprit, naturellement, il y a beaucoup de paysages de mon enfance qui recoupent un peu ce que j'ai décrit dans le livre.
Alors, Belaïde Aban, vous nous plongez dans le quotidien de cette région fictive, le travail agricole, la saison des olives, la saison des figues, les mariages, les maladies, les deuils. La vie était dure pour ces villageois. Vous évoquez notamment la mortalité infantile. Alors, on fait connaissance avec un grand nombre de personnages. On peut citer Aziden, Aïcha, Hadj Ameziyan, Lersen, Taos, Kabran, mais il y en a beaucoup plus. Qui sont-ils et qui est cette famille Azrobano?
Bon, d'abord, la famille Azrobano, c'est en fait, ce nom a été donné par l'administration coloniale sur la base de la proposition d'un chaouche qui regarde un rocher, Azro, parce que les Isra, c'est les rochers, pluriel de Azro. Donc, regardant le rocher qui domine Isra, il dit la famille s'appelle Azrobano. C'est Bueno. C'est un ermite qui venait faire ses recueillements dans une grotte qui domine donc le village. Et donc le chaouche, l'administrateur colonial, a noté Azrobano, le rocher de Wanou. Voilà, donc c'est le nom. Alors la famille, naturellement, elle s'inscrit dans la vie villageoise. Elle partage un horizon avec le boulanger, avec le fameux boulanger dont il est souvent question dans ce livre, avec le postier, avec le voisinage, dont M. Aferouas, qui a un rôle principal dans le livre, parce qu'il incarne un peu ce que la colonisation appelait les élites indigènes. Et puis, il y a la famille proprement dite, c'est-à-dire le patriarche, son frère qui rentre d'un très long voyage. Et puis, il y a la relève, c'est-à-dire l'Hassan, qui est le père de famille, qui était un ancien vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il y a un peu planant dans le récit, le personnage de Salas, qui incarne un peu la jeunesse algérienne qui s'est soulevée contre la domination coloniale. C'est la génération de tous les révolutionnaires de 1954. Voilà un peu. Et puis, il y a évidemment les femmes qui jouent un rôle capital dans l'histoire, puisque j'ai un peu raconté l'évolution de la place de la femme dans la société algérienne en général, dans la société kabyle en particulier. Aïcha, c'est une femme destinée à jouer un rôle traditionnel, mais le fait qu'elle soit partie en ville, elle s'est un peu, j'allais dire, entre guillemets, civilisée, un terme plus approprié quand on le dit en arabe ou en kabyle, on dit tbeled, ça veut dire qu'elle s'est citadinisée, et elle a appris les codes qu'elle ne connaissait pas au village. En plus, elle est belle, elle a épousé un riche restaurateur, et c'est comme ça qu'elle est devenue une femme de tête, auquel elle était prédestinée, puisqu'elle était une petite maman qui a élevé ses deux frères.
Alors, vous nous montrez dans ce roman qu'il était impossible de faire abstraction de la colonisation. L'un des héros du livre, on vient d'en parler, Larsen, songe à se marier quand les gendarmes font irruption dans la ferme et lui annoncent qu'il est réquisitionné. C'est la Seconde Guerre mondiale, il reviendra heureusement sain et sauf.
Oui, tout à fait. En fait, c'était le lot de toute la jeunesse algérienne, parce que, comme vous le savez, l'Algérie était régie par un statut de département français. Donc, les jeunes algériens, les jeunes indigènes, qui, même s'ils n'avaient pas la nationalité française, n'avaient pas les mêmes droits que les jeunes français, notamment les droits civiques, étaient néanmoins obligés au devoir civique, c'est-à-dire à faire le service militaire. Et donc, la jeunesse algérienne était réquisitionnée pour aller se battre, libérer une patrie dont, en fait, il n'était pas membre. Dans la profondeur du livre aussi, il y a le personnage de Kabran et de son frère, Aziden, qui étaient eux aussi obligés, qui étaient réquisitionnés pour faire la Première Guerre mondiale. J'ai consacré dans ce roman une bonne partie pour évoquer la souffrance endurée par la jeunesse algérienne au cours du XXe siècle, en tout cas les deux guerres, Première et Deuxième Guerre mondiale, réquisitionnée donc pour libérer la partie française, alors qu'ils n'étaient pas considérés comme des citoyens à part entière. En fait, ils se sont battus pour les guerres coloniales et les guerres impériales françaises, notamment en Indochine, même en Crimée, puisque la guerre de Crimée, c'était début des années 1850, et les Algériens étaient déjà réquisitionnés. D'autres Algériens étaient même réquisitionnés pour le Mexique, comme pour le Tonkin également. Donc tout ça, ça a été une très grande souffrance et j'ai délibérément évoqué cet aspect-là de l'écrasement de la jeunesse algérienne de l'époque par, si vous voulez, ses devoirs, entre guillemets, imposés à la jeunesse algérienne.
Belaïde Aban, la guerre de libération des Algériens est d'abord annoncée dans le roman sous forme de bribes d'informations. Les personnages apprennent que tel homme a été tué ou blessé, qu'il y a eu une opération de ratissage. La guerre apparaît d'abord comme extérieure au village avant de s'en rapprocher. Vous évoquez par exemple la mort d'un homme ménoir dont le corps est exposé sur un pont, puis il y a une attaque contre un gendarme.
Oui, oui, tout à fait. C'était une approche très, très spontanée du vécu de la guerre, parce qu'il ne faut pas croire qu'en 1954, c'est-à-dire au 1er novembre 1954, l'Algérie était en feu. Ce n'était pas comme ça du tout que ça s'est passé. D'abord parce que les préparatifs de la guerre de 1954 étaient très tenus, très secrets. Et ensuite, c'était surtout les grands centres urbains qui étaient visés par l'insurrection algérienne. Dans les villages, les gens entendaient parler d'un début de guerre, d'événements, etc. Mais c'était très lointain. En vérité, les choses ont commencé à devenir réellement concrètes quand les villages étaient investis pour, si vous voulez, réaliser ce qu'on appelle le concept de zone interdite, le regroupement et les zones interdites. Donc là, on commençait à véritablement voir ce que c'était la guerre. La guerre était partout. Voilà. Et puis il y avait aussi la mise en place d'un dispositif contre-insurrectionnel par des hélicoptères, par des camions qui roulaient partout, etc. Et donc la guerre, au départ, c'était des échos lointains. Dans la famille que je décris, la famille Azroubano, la guerre c'était une réalité parce que le fils prodige, si je peux l'appeler ainsi, Salas, était au maquis. Et donc, le père qui le chérissait par-dessus tout, puisque à la naissance de Salas, la femme de Aziz en était décédée, donc c'est un enfant né pratiquement orphelin, donc il le chérissait par-dessus tout, et à Salas ayant pris le maquis, le vieux patriarche ne pensait qu'à ça. Il se disait tout le temps, donc pour lui, la guerre était omniprésente. Il s'attendait tous les jours à ce qu'on vienne lui apporter la funeste nouvelle. Et c'est pour ça que dans la famille Azroubano, même si on ne voyait pas trop la guerre, mais elle était vraiment présente par le fait que Salas était parti et qu'on s'attendait à ce qu'on vienne leur annoncer sa mort.
Et la guerre, c'est par exemple l'obligation pour vos personnages d'avoir à un moment donné un laissez-passer pour aller d'un village à un autre. Les villageois apprennent incrédules que des femmes prennent le maquis, par exemple. Vous racontez la guerre de l'intérieur, vous l'avez dit, ce qui se passe dans les maquis, mais aussi comment cette guerre est ressentie par les proches de ces combattants. Vous qui avez écrit des essais sur cette guerre, vous avez le sentiment que le roman, la fiction, apporte une autre vérité sur cette période.
Oui, le roman, pour moi, c'était une chose très importante parce qu'il me fallait décrire les souffrances du petit peuple dont moi-même je faisais partie. C'était très important que ces souffrances-là, ce vécu terrible des gens, parce qu'il est très difficile d'imaginer pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu ce qui s'est réellement passé. Je ne voulais pas que ça se dissolve comme ça, on perde des profits, que rien ne s'est passé. Et c'est terrible. Ce sentiment m'obsède au point où je m'étais dit qu'il ne faut pas laisser passer ça. Je vois qu'en France, il y a eu beaucoup de livres, beaucoup de films sur les souffrances du peuple français pendant l'occupation. Et je me suis dit, et les peuples algériens, lorsque tout ce qu'il a vécu, personne ne doit en parler. Il n'y a pas beaucoup de gens actuellement qui sont en mesure d'en parler. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir vécu ça. Moi, je l'ai vécu. Il faut avoir envie d'en parler comme moi, j'avais envie d'en parler. Il faut être en mesure d'en parler. Il faut avoir les instruments conceptuels, il faut avoir les moyens intellectuels d'en parler. Et c'était pour moi une responsabilité de parler de ça, d'évoquer ces choses-là. Parce que je me suis dit, si personne parmi les gens qui sont en mesure d'en parler n'en parle, eh bien, c'est quand même une espèce de dommage inestimable pour la mémoire et pour l'histoire également des Algériens.
Et vous racontez notamment comment les soldats français détruisent les maisons des maquisards qui sont cachées dans les montagnes. Vous montrez dans ce livre comment ils pénètrent dans l'huilerie du village, là où on produit cette huile d'olive absolument délicieuse qui fait vivre toute la vallée. Et ces soldats fouillent même jusqu'au cimetière. Vous racontez la vie de ces villageois ensuite derrière des barbelés et des cultures qui sont laissés à l'abandon.
Oui. Ça aussi, c'est des choses vécues. Encore, je peux vous faire la confidence, Loïc Barrière, que ce que j'ai décrit dans le livre, c'est quelque chose de très, très édulcoré. Parce que ce qui s'est passé, c'est encore beaucoup plus choquant que ce que j'ai décrit. C'est quelque chose d'épouvantable.
Mais il est important de laisser une trace sur cette page sombre de la guerre d'Algérie, car vous le dites, on n'en a pas autant parlé qu'on le dit.
Oui. Pour moi, c'était un devoir d'écrire ce livre. C'était un devoir de laisser quelque chose de dire, parce que tous les faits que je raconte, ce sont des faits inventés, mais qui sont tout à fait possibles. Du reste, moi, je n'ai pas décrit la guerre. J'ai décrit la guerre dans la tête et les yeux et les oreilles des gens. Parce qu'en fait, ce que j'ai décrit, c'est ce qu'aurait pu voir un enfant. Or, un enfant ne voit pas directement la guerre. Et d'ailleurs, ce récit-là, je l'avais écrit à la première personne au départ. Et puis, j'ai tout réécrit avec un narrateur omniscient pour me donner un peu plus de liberté. Parce que... enfant, j'étais bridé. Je ne pouvais parler que de ce que j'avais vu ou de ce que j'avais entendu. Tandis qu'en faisant le choix d'une narration omnisciente, je pouvais rentrer dans la tête de tous les personnages et voir à travers eux ce qu'ils pensaient, ce qu'ils éprouvaient face à la guerre qui progressait inéluctablement pour rentrer dans les villages, dans la vie quotidienne de la population.
Merci Belaïd Abban d'avoir été l'invité de la bibliothèque de Radio Orient. J'invite tous nos auditeurs à lire votre livre superbement écrit, La Lune à Targan Zemmour. C'est publié aux éditions Les Impliqués. Merci.
Merci à vous Loïc Barrière. Merci infiniment.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.